Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes dans l'émission Le Monde Merveilleux du Travail. Ce soir, le syndicat de l'industrie aéronautique vous propose une émission consacrée au délit de marchandage et plus spécifiquement au sein des SS2I. On va vous expliquer tout ça. Avant de commencer, petit rappel, le numéro de téléphone de l'émission, si vous souhaitez poser des questions ou réagir, c'est le 01 43 71 89 40. On va attaquer l'émission, je vous présente quand même notre équipe du soir. Donc on a Colin à la technique.
Ouais, bonsoir à tous.
Salah avec moi pour le débat.
Salut tout le monde.
Et donc moi, Guillaume, tous membres du S2I. Alors on va commencer tout de suite avec le sujet du jour. En gros, on va essayer de vous présenter dans un premier temps les SS2I, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, quel type d'entreprise c'est. Et puis le fameux délit de marchandage, donc de quoi il s'agit. Et puis on va voir un petit peu ce qui est proche. On va parler du prêt illicite de main-d'œuvre, de la sous-traitance, du travail temporaire, qui sont des domaines très proches de tout ça. Et puis après, on va essayer d'évoquer un petit peu pourquoi on en parle, pourquoi c'est important, notamment pour nous dans l'industrie informatique et les SS2I, parce qu'on va voir que ça a beaucoup d'avantages pour les patrons d'assouplir, comme ils disent, de flexibiliser le marché du travail avec tout un tas de contrats plus ou moins bidons pour les salariés, dont notamment le marchandage. Et puis on va essayer de finir sur les conséquences pour ceux qui font du marchandage, donc les conséquences pour les patrons qui s'exposent à ce délit.
Et à savoir, si je dis pas de bêtises, c'est que le délit de marchandage, au niveau de la hiérarchie des délits au prud'homme, je crois que c'est ce qu'il y a de pire, parce que ça relève aussi du pénal. Hein.
Ouais, je crois que c'est ça. Attends, Je retrouve mes notes. Est-ce que j'avais mis les... Ouais, c'est ça, il y a du pénal, effectivement, C'est ça, pour les personnes physiques.
Ah, ça rigole pas, quoi.
C'est ça. Non, ça ne rigole pas.
Après, malheureusement, c'est hyper dur à prouver qu'il y a délit de marchandage, quoi.
C'est ça le truc. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le délit de marchandage? Et avant, peut-être, qu'est-ce que c'est qu'une SS2I? Pour que tout le monde comprenne bien, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'autre bout spécialiste en informatique et en entreprise informatique. Tu peux nous expliquer ça là rapidement, ce que c'est qu'une SS2I?
Alors une SS2I, c'est une société de services en ingénierie informatique. En fait, c'est c'est les boîtes qui embauchent le plus d'informaticiens, enfin la plupart des informaticiens travaillent dans ces boîtes qu'on appelle des SS2I. Et en fait, elles ont la particularité que les salariés en fait ne travaillent quasiment jamais au siège social. En fait, ils sont envoyés directement chez le client. Donc en fait, par exemple, on peut être salarié de chez Atos et travailler chez EDF ou je sais pas, ou la SNCF. C'est-à-dire qu'en fait, ça complique justement les liens syndicaux, enfin les liens entre les salariés, parce que chacun est dispatché à gauche et à droite.
Alors, en quelque sorte, c'est une sorte d'agence, entre guillemets, de placement d'informaticiens chez des clients. Quoi.
Et surtout que maintenant, en fait, la plupart des SS2I ou des agences web, en fait, ne fournissent aucune plus-value. Et c'est des espèces d'agences d'intérim qui envoient juste leurs salariés dans les boîtes et en fait, qui ne fournissent plus aucun boulot, quoi.
Ouais, à part un boulot commercial, en gros.
Ouais, voilà, c'est tout.
C'est ce qu'on va voir, quoi. Ouais. Effectivement, et c'est pour ça qu'on s'intéresse plus particulièrement au cas du délit de marchandage en lien avec les SS2I, parce que, ouais, comme tu dis, il y a ce côté un peu agence d'intérim, même si officiellement, ce sont pas des agences d'intérim, puisqu'elles ne peuvent pas avoir ce statut-là. On va parler du travail temporaire un peu plus loin, et c'est soumis à pas mal de restrictions. Donc, officiellement, une SS2I est une entreprise, et il y a un contrat qui est signé entre cette SS2I et une entreprise tiers. Et la SS2I s'engage à mettre X informaticiens effectivement à la disposition de l'entreprise tiers pour faire telle tâche.
Et d'ailleurs, ce délit, on peut le retrouver aussi dans d'autres corps de métier, enfin dans d'autres industries. Enfin, toutes les industries où les salariés sont placés à l'extérieur et en fait, ils ne travaillent pas au siège social. Je pense au nettoyage, ou d'autres.
Ouais.
Peut-être l'animation. Ouais, mais là, je pense que ça doit être les deux industries les plus touchées. De toute façon, ça doit être le nettoyage et l'industrie informatique là-dessus, quoi.
Ouais, c'est vrai que tu as raison de parler du nettoyage, parce qu'effectivement, maintenant, c'est beaucoup sous-traité à des boîtes. Et effectivement, ça se rapproche beaucoup. Alors, on va voir qu'il y a des subtilités juridiques dans tous les sens, mais globalement, le délit de marchandage, ça va être ça. Alors, peut-être juste pour l'historique, pour comprendre d'où ça vient, le marchandage et donc le délit de marchandage. En gros, ça a commencé au 19e siècle, à un moment où justement des petits malins se sont dit tiens, je vais entre guillemets acheter des salariés, des ouvriers, et puis je vais les revendre à des entreprises. Donc ils faisaient un peu leur vivier en quelque sorte de, d'ouvriers dans tout domaine, hein, peu importe, ça pouvait marcher avec tout. Voilà, je me fais mon petit vivier et puis je vais contacter quelques entreprises et puis voilà, je vais leur louer à la journée, à la semaine, au mois après.
Ah, parce que là, ce qu'on veut. Le truc qui monte qu'il y a là-dedans, c'est qu'on vend plus les services que peuvent rapporter les salariés, mais on vend carrément la main-d'œuvre en fait. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'humain qu'on vend et plus le service qu'il peut produire. Enfin, je sais pas, enfin, si les auditeurs comprennent cette subtilité, mais c'est pas un, c'est plus un service que l'entreprise vend. C'est de l'humain en fait. C'est un esclave qui va aller bosser, dans une autre boîte quoi.
Ouais, c'est un peu la différence avec la sous-traitance, qui n'est pas du marchandage. La sous-traitance, ça existe, c'est légal. C'est-à-dire, c'est je suis une entreprise, je ne sais pas fabriquer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, telle pièce, je suis un fabricant de voitures, admettons, d'automobile, je ne sais pas fabriquer telle pièce de l'automobile. Je demande à l'entreprise Intel, qui elle sait très bien fabriquer la pièce, de me fabriquer ou de me concevoir, par exemple, ça peut être un bureau d'études d'ingénieur ou autre. Aidez-moi à concevoir telle pièce parce que nous on n'a pas les
En fait, elles ont acheté un être humain.
Ouais, c'est ça.
À qui elle donnera des ordres louer, directement. Quoi. Ouais, voilà, louer, elle loue. Voilà.
C'est ça, c'est la grosse différence et c'est ça qui pose problème. Et donc, historiquement, le marchandage, donc à l'époque, les personnes qui faisaient ça étaient appelées les marchandeurs, marchandeurs de salariés. Et donc, a été créé à partir de 1848 une loi qui a dit non, ça, on va interdire toutes ces activités de marchandeurs, ça devient illégal. Bon, après, il y a eu des retours en arrière, des améliorations diverses, mais en gros, c'est à peu près à partir de cette date qu'on peut, je pense, cibler la première interdiction de marchandage. Et donc, c'est devenu un délit. Alors, on va voir qu'il y a des subtilités, on a commencé à en parler, entre délits de marchandage et des choses qui sont proches ou qui peuvent sembler proches et qui sont soit légales, soit illégales à l'heure actuelle. On a déjà parlé de la sous-traitance. On va peut-être revenir sur une notion qui est, elle, contrairement à la sous-traitance, illégale. C'est le prêt illicite de main-d'œuvre. Donc en fait, en réalité, c'est très très proche du délit de marchandage.
Ouais, j'avoue que j'ai jamais compris la subtilité là-dessus.
Bah, moi, j'ai regardé et honnêtement, en fait, la seule différence que j'ai pu trouver, alors ça, c'est le code du travail qui le définit, c'est la notion de... Alors, je relis mes fiches pour ne pas dire n'importe quoi. C'est la notion de préjudice, si je me souviens bien. Pour effet de causer un préjudice aux salariés lésés et d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlement ou de convention et accord collectif de travail. Donc ça, c'est...
pas pour me vanter, mais j'ai rien compris.
Bah, en fait, en gros, dans un cas, on estime que c'est du prêt de main-d'œuvre illicite s'il n'y a pas préjudice, c'est-à-dire si tu loues, si tu prêtes un salarié, ça c'est prêt de main-d'œuvre illicite, et s'il y a préjudice à l'encontre du salarié, ça devient délit de marchandage.
Mais c'est-à-dire que l'un n'est pas puni, c'est-à-dire que le prêt de... Fin...
Si les deux sont illégaux et punis.
D'accord.
Mais bon, la loi fait quand même cette différence. Alors c'est vrai que moi, petite personnelle, j'ai du mal à considérer qu'un salarié puisse ne pas être lésé à partir du moment où il est vendu ou loué ou tout comme. Bon, en tout cas, voilà, faut savoir que d'un point de vue purement légal, purement...
Parce qu'il faut savoir, par exemple, que... que souvent en fait on ne bénéficie pas par exemple de tout ce que les salariés ont comme avantage dans l'entreprise où le prestataire travaille, eux n'y ont pas le droit souvent quoi. Par exemple, moi j'avais bossé à la SNCF et en tant que prestat, t'as pas le droit d'aller bouffer à la cantoche de la SNCF.
Ouais, parce
et
que
en plus t'as pas de ticket resto, donc tu payes tout plein pot en fait, voilà, enfin c'est des petits détails comme ça qui fait qu'en fait tu te fais léser d'un côté et de l'autre quoi.
Ouais, parce que effectivement c'est ça le...
C'est vrai que t'as pas de congé payé,
En fait, théoriquement, t'es toujours soumis à...
Pas congé payé, mais par exemple, les RTT, si dans la boîte, t'as des RTT...
C'est pas celle de ta boîte où tu bosses, quoi.
Bah non, toi...
Celle de ta société à laquelle t'es lié par contrat, quoi.
Et comme ça marche pas comme ça, parce que c'est la boîte qui t'embauche, enfin, c'est la boîte dans laquelle tu fais ta prestation de service qui décide souvent de ton emploi du temps. C'est-à-dire qu'en fait, même si t'as des RTT dans la boîte qui t'embauche réellement, si le client chez qui tu travailles dit bah non, il faudra que tu sois là, t'auras ni RTT ni congé payé, bah en fait tu te plies aux exigences du client quoi.
Ouais, alors que normalement.
C'est qu'en fait t'es doublement lésé quoi. C'est-à-dire que en fait c'est comme si t'avais deux patrons.
Ouais. ces différences. Alors que oui, normalement, on va dire en termes purement légal, le salarié il doit être toujours lié à son employeur, c'est-à-dire à sa SS2I,
au siège social.
Il ne doit répondre normalement, c'est-à-dire les consignes, les congés, etc. Tout est.
Par exemple, on a eu plusieurs cas où, par exemple, un salarié qui bosse pour une boîte A, enfin qui est salarié d'une boîte A, veut partir en vacances, à poser ses congés, et il est envoyé en mission dans une boîte B. En fait, la boîte B lui dit, en fait, la mission, faut que tu la finisses. Donc, en fait, c'est elle qui. Normalement, elle ne devrait absolument pas avoir son mot à dire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la boîte qui t'embauche, la boîte dont tu es salarié, qui doit te dire si tu as le droit ou pas à tes congés payés. Maintenant, en fait, c'est-à-dire que c'est le client qui peut t'interdire, qui t'impose, en fait, son calendrier, quoi.
Ouais, donc c'est clair, tu te retrouves pris entre deux feux un peu. L'un te dit oui, puis l'autre te dit non.
Et généralement, de toute façon, c'est le client qui a le dernier mot. Donc, enfin, le siège social te dira toujours de fermer ta gueule et d'écouter ce que te dit le client, quoi.
Oui, donc.
C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec des donneurs d'ordre qui ne sont même pas ceux qui te payent, en fait.
Et d'ailleurs, c'est là que se manifeste le délit de marchandage. Mmh. C'est à partir du moment où on reçoit des consignes, non plus de sa SS2I, de son employeur, mais du client.
C'est exactement ça, de toute façon, à la définition. C'est à partir du moment où, de toutes les manières, ton client, enfin, une personne qui n'est pas ton employeur, te donne des ordres.
Ouais, donc c'est vrai que si peut-être des auditeurs ou des auditeurs connaissent des gens qui sont dans cette situation, c'est vrai que voilà, il y a des lignes marchandages à partir de là.
Surtout ça rapporte beaucoup prud'homme, si c'est
prouvé. Ouais, c'est ça aussi. Donc, prélicite de main-d'œuvre, marchandage, bon, grosso modo, c'est quasiment identique. Alors après, il y a des... Alors, ce que j'ai appelé marchandage légaux, en tout cas des formes de contrats qui se rapprochent du marchandage et qui sont des opérations légales. Donc on a parlé de la sous-traitance tout à l'heure, et puis il y a deux autres types de contrats qui sont concernés, c'est le portage salarial et le travail temporaire. Donc pareil, dans les deux cas, c'est légal. Alors il faut savoir que là, un salarié peut être détaché, on va dire, voilà, d'une entreprise A qui est son entreprise de référence, donc par exemple sa SS2I, et qui peut aller travailler donc dans une entreprise tiers. En revanche, tout n'est pas possible. C'est pareil, hein, le code du travail définit les choses à ce niveau-là. C'est très encadré, surtout le travail temporaire, mais même le portage salarial est très encadré par la loi. C'est-à-dire, une entreprise peut pas dire ah voilà, moi je fais du travail temporaire, il n'y a pas de souci, je fais du portage. Il y a quand même un cadre très strict. Par exemple, on peut dire sur le travail temporaire, le code du travail limite tout ce qui est travail temporaire à des missions de courte durée. Par exemple, remplacement d'un salarié absent. Je sais pas, un congé maternité, quelqu'un qui est malade ou autre. Là, ça peut s'appliquer, ou tout ce qui va être accroissement d'activité temporaire. C'est pour ça que notamment on a beaucoup d'intérimaires qui bossent, je pense aux périodes de Noël par exemple. Je sais que ça se fait beaucoup dans tout ce qui est, comment il s'appelle, les Pixmania, tu sais, ces discounts et compagnie. Au moment de Noël, comme il y a énormément de commandes, dans tout ce qui est
de demander de plus de commis ou de manutentionnaires.
Ouais, voilà, c'est ça. Dans tout ce qui est les entrepôts pour les stocks et tout, voilà, il faut des manutentionnaires et compagnie. Donc pendant un ou deux mois, là, il y a une très grosse activité, et puis après, ça revient à un niveau normal. Donc dans ces cas-là, effectivement, le travail intérimaire est beaucoup utilisé et est légal, puisque voilà, là, il est autorisé, on va dire, dans ce genre de contexte. Mais voilà, en gros, on pourrait résumer que la loi autorise quelques exceptions au marchandage, si on veut, à partir du moment où c'est justifié par une hausse d'activité, par quelque chose de temporaire, en tout cas, quelque chose qui va être limité dans le temps, et puis aussi quelque chose qui va être de l'ordre d'une tâche bien définie. C'est-à-dire, on ne peut pas recruter quelqu'un temporairement pendant 3 ans pour faire ceci, puis peut-être aussi cela, et puis ça change au cours du temps. Ça va plutôt être, voilà, c'est pour 2 mois et la tâche, ça va être la manutention de l'entrepôt untel à tel endroit parce que hausse d'activité. Donc c'est quand même très encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et les SS2I, en l'occurrence, tout ce qui est entreprise de prestations informatiques, ne sont pas concernés. Bon, peut-être dans certains cas, mais à ma connaissance, c'est pas du tout le cas majoritaire. Ils ne sont pas concernés par ces aspects-là, puisque en général, tout ce qui est SS2I, c'est plutôt des missions soit de longue durée. D'ailleurs, je crois qu'on a vu des cas de même de très longue durée.
Bah, on a des camarades de syndicats qui sont en mission depuis plusieurs années, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. On parle en, en année, quoi.
Ouais, je crois que c'est 18 mois, normalement. Une mission à SS2I, c'est 18 mois max, et qui peut être renouvelée à chaque fois, quoi.
Ah, donc ça, c'est comme ça que tu te retrouves avec des gens qui
sont... Ouais, je suis entré au syndicat en 2010, j'ai des camarades, ouais, qui sont chez le même client depuis 2010, quoi.
Ouais. Ouais, mais c'est ça. Je crois que j'ai même lu, alors, c'était sur le journal du net, je crois, des cas de personnes qui étaient depuis 10 ans pratiquement. Bon, là, c'est peut-être les cas les plus extrêmes, mais 10 ans chez le même client. Donc là, tu dis, ouais, tu fais quasiment partie de.
Ah non, c'est clair, bah, de toute façon, si t'es sur des technos assez, assez relous, tu vois, ou sur des trucs assez particuliers, de toutes les manières, le client va insister pour, que, pour garder le prestataire, quoi. Et, tu vois, il y a une expérience, ils vont pas redemander. Enfin.
Ouais, c'est ça. À la limite, ce serait plus logique que le client ait son propre employé, salarié en interne, quoi, puisque visiblement, il a un besoin permanent.
Ah, mais ça lui revient quand même moins cher.
Ouais, bah après, c'est ça.
Ça revient toujours moins cher de payer une prestation que de payer un salarié et tout ça, quoi.
Puis le jour où il a envie de le dégager, bon, bah.
Ouais, voilà, c'est plus simple. Fait ce qu'il veut, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que dans la logique, on se dit, voilà, quelqu'un qui est là depuis un an et demi, deux ans, voire dix ans. Il y aurait une logique à ce qu'il soit en CDI, à temps plein, sauf dans la boîte. Hein. Voilà.
Un prestataire, t'en fais ce que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il dise de toute manière ? Il n'est pas salarié de la boîte, donc le client décide, le prestataire, il doit fermer sa gueule. Quoi.
Après, c'est plus souple. C'est le gros avantage pour les clients qui utilisent les
salariés. Et surtout que c'est interchangeable. Quoi. Le jour où le mec tire la tronche ou arrive à la bourre, paf, il dit bah, tu m'envoies un autre prestataire et voilà. Quoi.
Ouais, c'est ça, il y a vraiment cette facilité pour la boîte de jongler comme ils veulent. C'est ce que recherchent les entreprises.
Ah, c'est-à-dire que tu peux pressuriser le salarié comme tu veux, mais sans avoir absolument aucune obligation envers lui. Quoi.
C'est ça, puisque les règles de ton entreprise ne s'appliquent pas à ce salarié-là. Et...
Bah, c'est un petit peu comme, si tu veux, en Allemagne, toute proportion gardée, où tu sais, où tu as des abattoirs avec des salariés des pays de l'Est, oui. Qui sont payés et qui travaillent avec les conditions des pays de l'Est.
Ouais,
ça, c'est, donc tu vois, c'était d'ailleurs le grand enjeu de la réforme européenne en 2005. C'est ça, c'est qu'on puisse, enfin tu sais, avec l'histoire du plombier polonais,
ouais.
C'est qu'un plombier polonais pouvait travailler en France, mais avec les conditions de travail de la Pologne.
Avec le droit du travail polonais, etc.
Donc ce qu'on a déjà en Allemagne, tu vois, et donc c'est toute proportion gardée, c'est un peu ça, quoi.
Oui, mais c'est un peu l'idée, c'est ça, c'est que ton salarié, finalement, bah, ce soit pas ton salarié, justement, que ce soit quelque chose d'assez manipulable facilement, que tu peux jeter quand t'as envie.
C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec des collègues à qui tu bouffes, qui ont des tickets restaurants de 9 euros,
ouais.
Et toi, dans ta boîte, t'en as même pas, en fait.
Bah c'est ça qui doit être délicat.
Donc t'as un énorme décalage où les gens partent en RTT, toi tu restes le dernier à bosser, les gens ont plus de congés payés, bah toi non. Ça.
Ouais, ça fait bizarre finalement de pas être au même régime que des gens qui, sur le long terme, deviennent tes collègues. Quoi,
ouais, c'est
fait.
Enfin, et surtout de te faire imposer des choses par quelqu'un qui ne te paye même pas. Quoi. Enfin, notamment, donc, je te disais, les congés payés ou tu vois... Ou la boîte qui embauche réellement, enfin qui est dont l'employé est salarié. Donne les RTT pour une période, la personne elle va prévenir le client, dit bon bah telle période je me barre, le client dit bah non tu restes, on a besoin de toi, quoi.
Oui, à la limite le seul recours d'un informaticien dans ce cas là c'est de s'adresser à sa hiérarchie à lui, c'est à dire dans son entreprise, dans sa SS2I, de dire voilà le client me demande ça, je suis pas d'accord ou qu'est-ce qu'on fait, mais c'est sûr que pour la SS2I, comme c'est son client, il va plutôt être tenté de satisfaire le client.
Généralement, enfin, on pousse à la porte.
Ouais, c'est
enfin,
ça,
tu vois, je sais comment ça se passe et généralement tu fermes ta gueule. Hein. Enfin, de toute façon, de toutes les manières, la boîte qui t'embauche, elle sera toujours contre toi, elle sera toujours du côté du client. De toute façon.
Oui, c'est ça, le but, c'est que le client y reste.
Ouais, voilà. Toi, t'es juste là à te prendre les tirs entre les deux et c'est tout, quoi.
Et donc, au final, tu dirais, toi, que les informaticiens, majoritairement, ils ont plutôt tendance à se plier au client, quoi. À ce que va leur dire leur client.
Ah, bah ça, c'est ouais, tout le temps, quoi. Bah, de toute façon, sinon, c'est de licenciement.
Ouais. Licenciement ou enfin, pousser licenciement.
Un client, un prestat qui est dans une boîte chez un client, le client lui dit tu fais ci, bah, tu le fais. Hein,
est-ce que les informaticiens savent que le client n'a pas le droit et le font pour
non, parce qu'ils ont peur ?
Ils le savent même pas.
Non, très peu le savent. Bah, tu sais, c'était dans le bouquin. D'ailleurs, je ne sais même plus le nom du bouquin. C'était sur la vie dans les SS2I. Ah oui, c'était de Nicolas Séné.
Ouais.
Est un mec qui racontait qu'en fait il était embauché par une boîte A, il travaillait avec du matériel d'une boîte B dans les locaux d'une boîte C.
Ouais.
C'est qu'en fait, il se retrouvait avec trois employeurs, enfin avec trois boîtes différentes.
Ouais,
donc clair. Le mec savait même plus finalement qui devait le payer ou enfin.
Oui, à qui s'en référer, à qui auprès de qui prendre les consignes, à qui faire des retours, etc. Mmh. Ouais. Là, t'es un peu paumé et puis quelque part c'est pratique pour l'employeur qui ou le client qui peut balader la personne dans tous les sens. Et... Non, c'est sûr que c'est pas toujours des conditions de travail idéales.
Non, ça c'est clair.
Loin de là. Peut-être une petite pause musicale, on propose, ouais, avant d'attaquer la suite, les autres réjouissances. Et bah c'est parti, Colin.
Cause
Radio Libertaire, le monde merveilleux du travail. Vous venez d'écouter The Skins d'abord, c'était Rise Up des Skins, et ensuite l'Escalope, Ya Viendra Mi Tourno. Ouais, je parle pas très bien l'espagnol, mais bon, c'est pas grave. Allez, à vous.
Eh bien, rebonsoir. Donc, c'est toujours le syndicat de l'industrie informatique qui vous parle dans l'émission Le Monde Merveilleux du Travail. Ce soir, le thème est le délit de marchandage, mais plus particulièrement le délit de marchandage dans les SS2I, c'est-à-dire les sociétés de services
en ingénierie informatique.
Ingénierie informatique.
C'est vraiment barbare comme nom.
Je vous rappelle le numéro de téléphone du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez poser des questions ou réagir à ce qui va se dire.
Et la carte de soutien aussi.
La carte de soutien, oui, pour Radio Libertaire.
Ouais.
Ouais, effectivement, on peut rappeler que Radio Libertaire est une radio qui fonctionne uniquement sur, avec les dons des personnes qui ont la carte, et vous pouvez acheter cette carte à la librairie Publico. C'est près de la place de la République, entre métro Oberkampf ou métro République.
C'est, pour être précis, c'est le 145 rue Amelot, le 11e à Paris.
Je crois que tout est dit.
On peut se barrer.
Sinon, on aura l'occasion de le redire. Donc, revenons à nos moutons, le délit de marchandage. Donc, dans la première partie, on a dégrossi un peu qu'est-ce que c'était qu'une SS2I, qu'est-ce que c'était que le délit de marchandage, et les éléments qui s'en rapprochaient. On a parlé de la sous-traitance, on a parlé du travail temporaire. Donc, il y avait une partie du marchandage qui est considérée comme illégale et une partie qui est légale, c'est-à-dire travail temporaire, portage salarial et sous-traitance. Sont niveau légal différent. Maintenant, on va essayer de s'intéresser plus particulièrement au pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi les entreprises, pourquoi le patronat est assez friand de tout ce qui est sous-traitance. Non, justement, on a vu que la sous-traitance était dans un cadre particulier, mais en tout cas, externalisation, voilà, au sens large, de salariés, de fonctionnalités. Et j'ai quelques petites citations made in patronat dont je voudrais vous faire profiter, qui vont illustrer, je pense, un petit peu l'ambiance.
C'est assez simple, de toute façon, ça permet au patron de n'avoir que des droits et aucun devoir
envers
la personne qui a fait travailler, quoi.
C'est un peu ça l'idée, mais déjà, je trouve que, personnellement, c'est un peu l'idée sur la sous-traitance. On l'a dit tout à l'heure, c'est légal. On a vu en quoi ça consistait, mais j'ai personnellement pas mal bossé avec une entreprise qui avait des sous-traitants à l'étranger, évidemment, en général, puisque alors que ce soit la Tunisie ou le Maroc ou Madagascar, ça se fait beaucoup en ce moment.
C'est clair, l'offshore, là, ça...
Ouais, voilà, tout ce qui est offshore.
Ça fait le plein.
Et pourquoi ? Parce que c'est moins cher, ça c'est clair. Un Tunisien ou un... Enfin, un Tunisien, je connais pas trop les tarifs, peut-être t'en sais plus, mais je sais qu'à Madagascar, c'est globalement... 7 à 8 fois moins cher qu'un salarié en France. Il y a pas photo.
En Tunisie, le salaire moyen, ça doit être du 300-400 dinars. Ça doit faire, 250-300 euros.
Ouais.
À vue de nez, attention.
Ça, c'est le salaire. Donc, peut-être, tu rajoutes la part que se prend le sous-traitant. Ça doit faire quoi, 5 ou 600 euros de facturation pour une entreprise. Bon, allez, soyons larges, disons 800, même s'ils se font plaisir, les sous-traitants, ce qui des fois peut être le cas. Bon, voilà, même une facturation à 700-800 euros, ça reste bien moins cher qu'un
ça
employé.
Ça m'étonnerait pas, moi je regardais quand les boîtes me sous-traitent, en fait, c'est simple, c'est du simple au double, quoi.
Au moins, quoi. Moi je sais qu'à Madagascar, pour
là,
un salaire
là, je te parle ici,
euros,
enfin, pour moi, c'est-à-dire en France.
Ah, et toi ici, là,
moi ici, c'est du simple au double, j'ai déjà vu, en fait.
Ouais.
Mon client s'était gouré, m'avait envoyé la facture qu'il envoyait, mon client. Ouais, donc mon client, c'était gouré, avait envoyé la facture qu'il envoyait à son client pour qui je travaillais. Et donc c'est vraiment du simple double.
Non, mais ça m'étonne pas. Et même en offshore, c'est un peu pareil. Sur des salaires de 100 euros, la boîte, elle était facturée, c'était combien, 400 ou 380 ou 400 euros. Ça, donc, après, je veux bien qu'il y ait l'électricité, les locaux, le personnel... annexes, genre les RH, les comptables, etc., c'est sûr, mais...
Bon, les boîtes informatiques, elles produisent plus rien, elles n'ont pas de salariés. Enfin, dans le siège, t'as que la compta, et encore, même la compta, maintenant, elle est externalisée, quoi.
Ouais, c'est en général, tout est externalisé, il reste plus que deux pélos.
Quelques connards de commerciaux, voilà.
Et il n'y a plus que ça,
ouais. Et toute la RH, quoi.
Non, mais ça, et donc ce que je disais, c'est que déjà la sous-traitance, bon, il y avait ce côté coût, purement coût, qui était moins cher, mais surtout, je voyais bien que pour ma direction, un des gros avantages, c'était le côté, on n'a pas à s'embêter avec le recrutement, avec tout ce qui est négociation salariale, tout ce qui est les promotions et compagnie. Bon, voilà, toute cette partie-là, c'était vraiment le sous-traitant s'en occupe, ou pas d'ailleurs, à la limite. L'employeur, il s'en fiche, lui, il paye sa prestation, les gens travaillent, et derrière, on est peinard, on n'a pas à s'occuper de savoir si ils sont contents ou pas de leur boulot, si jamais ils se barrent, bon, bah, faut les remplacer, ok. On n'a pas ni à les recruter, ni à les former. Il y a vraiment, j'ai toujours senti ce côté-là, que c'était vraiment un gros avantage pour eux de se dire, on est tranquille de ce point de vue-là, qu'on n'a pas d'énergie à consacrer à toute la partie, entre, on va dire, sociale, quoi, finalement, qui, il faut dire ce qui est, les fait chier, quoi. Je pense que, clairement, il y a cet avantage. Deuxième avantage, t'en as parlé tout à l'heure, quand tu disais la casse de la solidarité entre les personnes, parce que c'est vrai que, donc, puisqu'une SS2I, en particulier, d'autres sociétés aussi, mais là, on parle surtout des SS2I, disperse quelque part tous ces salariés sur divers sites, finalement, les gens se connaissent peu, quoi, ou voire pas du tout, non ? Dans la SS2I, ils sont isolés, quoi. Ils connaissent mieux, finalement, leurs collègues chez le client.
Mais surtout que ça fait, une concurrence entre les intras et les extras. Enfin, je me rappelle ma dernière mission que j'ai fait en régie. En régie, c'est-à-dire c'est directement chez le client. Il y avait sur mon bureau un tract de la Cégette qui disait, ouais, on a marre d'utiliser des prestataires de services, nanani, nanana. Enfin, c'est clair qu'ils pourraient, enfin, moi, ça m'a fait marrer parce que c'était moi, en l'occurrence, le presta. Mais c'est clair qu'ils ont raison. Enfin, normalement, ça devait être fait en interne. Enfin, tu vois, privilégier le boulot en interne ou l'embauche, tu vois, ouais. En CDI, quoi. Donc, aussi, t'as quand même une énorme concurrence. Donc, généralement, les prestataires sont quand même très, très mal vus, tu vois, dans les boîtes où ils bossent, quoi.
Ouais, donc, en plus, en tant qu'individu, t'es pas forcément à l'aise, chez ton client, quoi. Non, parce qu'il peut y avoir un rejet.
Enfin, tu vois déjà comment le monde du travail peut être vachement excluant entre salariés, alors que là, enfin, tu fais même pas partie de la boîte. Donc, tu sais, il y a quand même une espèce de barrière. t'es qu'un étranger, en fait, si tu veux, quoi, ouais. dans la boîte, quoi. Même si ça fait longtemps que t'es là, quoi.
Espèce d'apartheid officieux entre les vrais.
Et qui est réel, enfin, tu le sens, tu le vois, enfin.
Même quand t'es là tous les jours, quoi.
Ouais, même quand t'es là tous les jours. Ouais.
Comme les autres.
Enfin, tu vois, tu sais, les gens qui te proposent même plus pour venir à bouffer, enfin, tu sais, qui font un petit machin entre eux.
Ouais, sauf que déjà, moralement, ça doit être particulier. Hein. Puis après, pour s'unir, quoi. Donc, s'il y a un souci, pour faire du syndicalisme et autres, c'est vrai que nous, on voit bien ça au syndicat. On a énormément de mal, notamment à faire des sections syndicales, en partie pour ce genre de problème. C'est que dans les SS2I, les salariés se connaissent pas, quoi, finalement. Parce que si on pouvait monter une section syndicale, on la montrait à l'intérieur de la SS2I, là où au moins deux camarades seraient syndiqués dans la confédération. Mais vu que de toute façon, ils se connaissent pas, se rencontrent pas, dialoguent pas, c'est sûr que y a moins de chances, on va dire, c'est plus difficile de.
Et c'est con, parce qu'en plus, tu peux. T'as le droit de monter une section syndicale dans l'entreprise client où t'es, avec les salariés de l'entreprise où t'es, quoi.
Ah oui, ça c'est permis.
Que toi, ouais, t'as le droit, enfin, toi t'es prestataire, enfin tu bosses pour une, enfin t'es salarié d'une boîte A, tu bosses dans les locaux d'une boîte B, et ben t'as le droit de monter une section syndicale avec les salariés de la boîte B.
Ouais, d'accord.
Ouais. Et c'est con, hein, tu vois, pourtant on peut monter une section syndicale, on a le droit, je sais plus, c'est. Alors, ouais, je crois que c'est les prud'hommes qui avaient. Les prud'hommes. Ouais, moi les prud'hommes.
Enfin, en tout
cas, il y a une jurisprudence là-dessus, quoi.
Ouais.
Comme quoi, tu peux monter une section syndicale avec la boîte cliente pour laquelle tu travailles, quoi.
Ah, du coup, c'est un peu étonnant, quelque part. Ça veut dire que le prestataire est un peu reconnu comme faisant partie de l'entreprise cliente, quoi. Il y a bien on voit bien que c'est pas clair, quoi. Que ni pour les uns ni pour les autres, il y a vraiment une ambiguïté sur la position.
Il y a toujours eu un flou juridique là-dessus. Pour que justement les grandes entreprises, les grandes SS2I puissent s'en mettre plein les poches, quoi. Enfin, tu sais, tous les gouvernements de gauche ou de droite leur donnent un peu carte blanche, tu vois, parce que c'est le fleuron, c'est l'informatique, c'est beau, c'est high-tech, c'est mignon et tout, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est là où t'as l'un des pires patronats, quoi. Enfin, parce que, de toute façon, syndicalement, il y a quasiment personne. Au point où la convention collective de la plupart des informaticiens porte le nom du Syntec, et Syntec, c'est aussi le nom du syndicat du MEDEF, Syntec MEDEF, quoi.
Ouais, c'est
pour monter un peu le rapport de force qu'il y a dans cette industrie, quoi.
Le MEDEF qui l'a mis en place, mais d'ailleurs, je crois que même précisément, c'est. Non, c'est pas le baron Sellière qui avait mis en place.
Si, ouais, c'est ça.
Ça, hein, c'est le baron Sellière qui était grande famille de la métallurgie, puis des sociétés de services qui se sont vachement développées dans ce domaine-là. Ouais.
Est-ce qu'on peut faire un petit hiatus là-dessus rapidement? C'est qu'en fait, historiquement, en France, l'informatique dépendait. Enfin, c'était de l'industrie, hein, c'était l'industrie réelle, physique. Donc, ils produisaient des machines, des serveurs. Et en fait, ça a glissé de plus en plus vers les services. Donc, des produits virtuels et plus physiques. Donc en fait, la plupart des informaticiens avant étaient syndiqués, enfin avaient pour convention collective la convention collective de la métallurgie. Donc qui est quand même assez favorable par rapport à d'autres salariés, parce qu'il y a quand même une culture de lutte très ancienne dans l'industrie métallurgique. Sauf que depuis tout ce temps, en fait, ça a glissé vers une nouvelle, cette saloperie de convention collective qui s'appelle le Syntec, qui est ultra favorable au patronat, quoi.
Ouais, qui a été faite de toute façon.
Oui, qui a été faite par le patronat avec des syndicats fantoches. Bon, je crois qu'il n'y en avait même pas.
Je crois que la Syntec, de mémoire, elle a été signée par la CFDT.
Ouais, enfin, ça
sert à rien
de le dire.
Peut-être la CFTC, mais ouais, voilà. Faudra vérifier, on va pas faire de la délation, mais. Enfin bon, sans surprise, quoi. Non, c'est sûr que cette convention qui régit quasiment toutes les SS2I, sauf qu'il y a encore peut-être des exceptions, mais c'est sûr que la plupart sont sous cette convention.
D'ailleurs, donc à tous les informaticiens ou non-informaticiens, si vous êtes sous la convention collective de la métallurgie et qu'on essaie de vous faire passer sur la Syntec, il va falloir se bouger le cul et pas se laisser faire, quoi, parce que vous y perdrez gros, quoi, là-dessus.
Non, ça c'est sûr que la Syntec, c'est vraiment pas le... c'est pas la joie.
Ouais, ça c'est clair.
Et d'ailleurs, une petite... quelques citations, si on veut, des organismes patronaux sur cet aspect marchandage et des marchandages, donc on a dit, et leur but c'est de tirer au maximum vers la non reconnaissance du délit de marchandage dans la façon de procéder des SS2I. Et effectivement, alors le pire que j'ai trouvé dans l'idée, c'était le SIGREF. Donc c'est le club informatique des grandes entreprises françaises.
Ça existe, ce machin ?
Ouais. En tout cas, jusqu'à 2010, au minimum, ça existait. Je crois que ça existe toujours.
Il y a qui dedans, on sait, quoi ? Genre Atos, Capgemini ?
J'imagine, il doit y avoir toutes les... Là, j'ai pas la liste, honnêtement, mais il doit y avoir tous les grands noms.
Ça fait presque sympa, quoi, le club.
Ouais, c'est ça, on fume des cigares, on boit du brandy. Et dans l'idée, eux, alors c'était carrément... Donc d'ailleurs, ils avaient remis cette demande à la commission Attali. Donc ça, c'était en 2010. Et eux, ils demandaient carrément la suppression du délit.
Donc,
tant qu'à faire, voilà, c'était, faut plus que ce soit un délit du tout, le marchandage.
Mais limite, on peut pas leur en vouloir, ils sont raccord avec leurs idées.
Oui, voilà, il y a une cohérence. Il faut reconnaître ça. Mais bon, c'était un peu culotté quand même d'aller jusque-là. D'ailleurs, en fait, la commission a même pas pris en compte cette demande. Ça a été mis de côté assez rapidement.
Mais vu comment la gauche au pouvoir leur laisse tout faire, ça se trouve,
ouais, ça va peut-être
ça va être fait sous ce mandat-là. Hein.
Pour revenir à la
charge. Est passé déjà, à mon avis, ils peuvent tout faire passer
pourquoi
maintenant.
Pourquoi pas.
Ouais.
À la limite, ça ira dans le même sens. Et donc, oui, le porte-parole de ce club-là disait, sans surprise, je vais vous citer quand même, « Il faut retirer l'épée de Damoclès de la tête des employeurs des grandes entreprises pour améliorer leur productivité. » Les contrats de prestation de services se sont imposés comme un moyen facilitant la recherche d'emploi qui convient à une forte majorité des cadres, particulièrement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc voilà, toujours le discours.
Ils se foutent de la gueule du monde, quoi.
C'est bon pour les salariés, c'est même eux qui le demandent.
Ça fait plaisir qu'ils fassent notre bien malgré nous, quoi.
C'est ça.
C'est qu'on a un ange qui veille sur nous, quoi.
Après, ça reste de la com, évidemment, mais voilà. Vraiment, ce qu'ils demandent, on le voit clairement, c'est le côté productivité. Quoi. C'est voilà, nous on veut des salariés souples qui ne demandent pas grand-chose, qu'on puisse manipuler comme on veut, parce qu'évidemment, c'est plus pratique. Et une deuxième petite citation, donc ce coup-là du Syntec informatique, donc là nos amis du patronat spécial Syntec.
Petite dédicace à Guimamoumani.
Guimamoumani.
Ouais.
qui donc le Syntec informatique, donc lui un peu plus modéré, qui voulait pas donc le supprimer, enfin le voulait pas, en tout cas l'annonçait pas clairement, parlaient d'assouplir. Donc eux, ils voulaient assouplir. Ils ont eu cette petite phrase que j'ai trouvée rigolote, si on veut. Ils voulaient donc un amendement permettant de clarifier nos opérations et d'expliquer que nous ne mettons pas à disposition des collaborateurs, mais que nous les détachons dans le cadre d'un contrat commercial.
C'est vraiment, mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde, quoi. Claude, non, mais sans déconner, quoi. Il a vraiment dit ça, c'est...
Ouais, c'est
parce que c'est Guy Mamoumani ?
Non, c'est pas Mamoumani. Je sais plus qui est la personne. J'ai pas le nom de la personne qui a déclaré ça. C'était en 2010. Et c'était une d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, une représentante du Syntec Informatique.
Il y a vraiment des baffes qui se perdent, quoi, sans déconner. Hein. Enfin, franchement, c'est pas un cracher à la gueule, c'est pas se foutre de la gueule du monde de sortir une phrase comme ça.
Oui, parce qu'en plus, cette phrase, je trouve que vraiment, elle dit tout. Elle dit, bon, on est sympa, on veut pas l'interdire, vous comprenez, on fait dans le social.
Ouais.
Mais si, en fait, quoi. En fait, bon, on voudrait juste que ce soit reconnu que, non, nous, on n'est pas des méchants qui faisons du marchandage. On détache des gens dans le cadre d'un contrat commercial. Donc voilà, c'est vraiment jouer sur les mots.
Ils sont incroyables, quand même. Hein.
Ouais, c'est ça, ils vont te faire mettre quelque part dans la loi détachement de cadre dans un contrat commercial.
Quand tu penses que tu dois avoir une équipe de com derrière pour te pondre une merde pareille, quoi. Enfin...
Et tout ça pour dire en substance, ce délit de marchandage, nous, ça nous embête parce qu'effectivement, on a des prud'hommes aux fesses à cause de ça, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on voudrait. Même si d'ailleurs, au passage, ils ne se privent pas quand même de faire pas mal de mises à disposition de salariés, parce que dans les faits, on l'a dit, c'est déjà le cas. Ça se fait tous les jours, quoi, des mises à disposition de salariés.
Mais au niveau de l'utilisation de la sémantique, on vit quand même une époque formidable, parce que tu vois, ce genre de phrase, ça me fait typiquement penser au mot flexi-sécurité, quoi. Enfin, ouais, tu vois, c'est comme dire blanc-noir, enfin, je sais pas. Mais...
Un oxymore,
ça ouais, s'appelle. Voilà, on vit vraiment une époque formidable, quoi.
Non, c'est ça. Et puis avec de la com comme ça, des mots, des jeux sur les mots, tu fais passer un peu tout et n'importe quoi. Tu vois. Le MEDEF est gentil. Non, il veut notre bien. Et il veut juste nous en mettre plein là où il a envie de nous en mettre.
Ouais.
Et donc voilà, c'est globalement, moi, il me semble que ça illustre quand même une volonté générale, quoi, qui est une surprise pour personne, je pense. Qui est de tirer le CDI, qui est censé être la règle, vers de plus en plus de travail précaire, finalement.
Même surtout d'externaliser. En plus.
Ouais, d'externaliser pour se faciliter la tâche. Quoi.
Parce que là, si tu regardes bien le délai de marchandage, en fait, c'est le rôle d'un salarié, de quelqu'un qui devrait être en CDI, mais que finalement...
Tu le fais faire par une autre boîte.
Ouais, voilà. Enfin, le statut que devrait avoir un salarié comme ça, c'est un statut de CDI dans l'entreprise cliente, quoi.
Mais là, le truc, c'est on a une mission, on en a pour 6 mois, on prend quelqu'un, comme ça, il s'en va. Si on a besoin d'un peu autre chose, on reprend soit le même, soit un autre, mais au moins, il n'y a pas le côté masse salariale, comme on dit dans le langage qui va bien, masse salariale à gérer et qui pèse. Et puis, ça va avec tout le discours patronal du type... le droit du travail français, c'est trop chiant, c'est trop compliqué, ça nous lie les mains.
Surtout qu'en plus, ce qui est marrant, c'est quand tu regardes les chiffres européens, en plus, c'est même pareil, quoi. C'est même pas la France. Enfin, déjà, t'as les pays scandinaves, et avec l'Allemagne, on est quasiment au même prix, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça, je crois qu'il y avait des chiffres, alors moi, je me méfie toujours des chiffres.
La Belgique, par exemple, c'est plus cher.
Tu sur TF1 ouais. Ah, la Belgique est plus chère.
Ouais, le coût du travail horaire est plus cher en Belgique qu'en France, tu vois. Comme quoi, tu vois.
Ah oui. Il y a pire.
Ouais.
Enfin, il y a pire, il y a mieux, mais ça dépend de quel côté.
Ouais, par contre, t'as pire, quoi. T'as l'Angleterre, c'est diminué.
Oui, après, c'est clair.
Ça vaut rien du tout, quoi.
Niveau protection sociale et compagnie, même l'Irlande aussi, je crois que c'est pas rare.
L'Irlande, je crois que le au contraire, hein, je crois que le coût du travail, il est assez élevé. Hein.
Le coût du travail, mais je crois au niveau protection sociale, c'est Sécu, ce genre de choses.
Ah oui, ça, je pense que ça doit pas être. De toute façon, c'est un pays anglo-saxon, donc ça doit pas être. Ça doit être pas la teuf, quoi, mais.
Parce que je crois qu'il y a peu d'imposition, donc il y avait pas mal à un moment, notamment un français pays, qui se disaient je vais y bosser, machin, tu sais, notamment Google, là ils avaient installé un gros centre.
Ouais.
Parce que genre je vais y bosser, c'est bien payé, machin bidule. Mais bon, ouais, c'est bien payé, sauf que quand ils commençaient à se marier, à avoir des gosses ou des problèmes de santé, hop, et rentraient tous en France parce que là, ah ouais, non, mais tu comprends, la sécu, l'éducation, gratos,
c'est tout. C'est un sacré merdier là-bas, quoi. Enfin, un truc qui n'a rien à voir, mais je lisais un truc assez marrant, c'est hier, je lisais une interview de Ken Loach et qui expliquait que les pompiers anglais. En fait, ils avaient réussi, l'État a privatisé les lances à incendie.
Ouais.
Et donc, en fait, les lances à incendie sont louées à des boîtes privées, en fait. Les lances à incendie des pompiers sont louées à des boîtes privées, quoi. Enfin, je t'en compte, tu...
C'est comme les Grecs, ils vendent leurs îles, les pompiers, ils louent leurs lances.
Ouais,
tu arrives à des trucs de ouf, quoi. C'est... Pour éponger la dette.
Ouais.
Ah, je crois que Colin nous fait signe qu'il aimerait bien nous passer un petit morceau de musique. Donc on va lui laisser la place. Et on revient dans quelques minutes.
Aux armures brillantes se pavane, étrinque à la santé des cigarières de la Havane. La tête dans l'engrenage d'un long combat ordinaire, je viens marteler la terre d'un tas de paroles incendiaires mélancoliques. Je ne rêve plus d'équilibre ni d'harmonie. J'entends se rapprocher le grincement des automates sur le fil. Je rêve de ne pas sombrer dans la folie et de finir par avancer le dos courbé à quatre pattes. Les semelles usées, la voir traîner un peu partout, à cravacher comme un chien, la gueule ouverte et l'air de rien. J'en sors traumatisé de gérer ma vie au coup par coup, d'avoir la même rengaine qui vient rythmer le quotidien, toujours à cran. Jusqu'à quand et jusqu'où, jusqu'au dernier retranchement, jusqu'à plus tenir debout. Je ne vois que des caboches saturées de plomb à l'horizon, des visages sans nom qui hurlent seuls à l'unisson. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train, je veux descendre. Arrêtez ce train. je veux descendre. Arrêtez ce train. La foule crie, le scandale, personne ne peut l'entendre. Furieux sentiment d'impuissance me terrasse, me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction, et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde, je n'y trouve pas ma place, et je suffoque perdu dans le dédale des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure et écrase tout sur son passage. Moteur au bord de la rupture, à l'intérieur c'est la panique, les neurones court-circuitent. Ça va trop vite pour établir, on connaît tous la suite. Maudit soit la race des puissants, aiguilleurs du chaos, leurs instincts suicidaires et leurs penchants pour l'échafaud. Au coin des lèvres, toujours cette arrogance, ce petit rictus. Mais ils oublient que pour eux aussi, il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train. Arrêtez ce train. Je veux descendre. Arrêtez ce train. Là-bas il n'y a plus rien. Et descendre, arrêtez ce train. Arrêtez ce train, j'ai dit, je veux descendre. Arrêtez ce train. La foule crie, le scandale, et personne ne peut l'entendre.
D'écouter donc Tagada Jones, c'était La descente aux enfers, suivi de Arrêtez ce train de La Canaille. Donc vous êtes sur Radio Libertaire, le monde merveilleux du syndicat de l'industrie informatique. Allez, à vous.
C'est notre monde merveilleux, non, c'est le monde merveilleux du travail.
C'était un raccourci, c'était une contraction. Alors que je rappelle une dernière fois le numéro du studio si vous souhaitez poser des questions ou intervenir. Le 01 43 71 89 40.
Apparemment, vous êtes tous en vacances déjà en train de vous bronzer.
Ah, je pense que c'est ça, là. Tous déjà à la plage.
Alors que nous, on se fait chier à Paris, là.
À parler du délit de marchandage. Ouais. Alors qu'il y a des choses plus heureuses dans la vie.
C'est dans ces périodes comme... c'est dans ces périodes-là que je déteste les fonctionnaires. Non, je plaisante.
Alors, on reprend. On en était où ? Ah oui. On disait un petit crochet avant de passer aux conséquences du délit de marchandage, c'est-à-dire les sanctions qui sont prévues par la loi, etc. Un petit crochet par ce qui se passe dans les SS2I pour les informaticiens donc qui sont salariés et qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les intercontrats, c'est-à-dire quand ils ne sont pas chez un client, en fait, quand le commercial, non, si je ne me trompe pas, c'est ça, en gros, chaque informaticien a pour manager...
Ouais, un commercial généralement. C'est, ça, ouais. Ouais. C'est là le malheur, c'est que c'est très rarement quelqu'un du métier en fait. Ouais. Donc il place les informaticiens dans les boîtes. Et en fait, entre deux missions, enfin entre deux clients, donc le prestataire, enfin l'informaticien est dans ce qu'on appelle un intercontrat. C'est-à-dire que soit il est chez lui et il attend que le téléphone sonne, soit il est au siège social et on lui fait faire des formations à la con, enfin des trucs complètement débilisants.
Glande, quoi.
Ouais.
Plus ou moins.
Et où t'es ultra culpabilisé. Genre en gros, enfin c'est alors que c'est le commercial qui te trouve pas de mission, c'est l'inverse, c'est le commercial qui te dit c'est toi la merde, enfin tu vois si tu trouves pas de taf, c'est que t'es pas au niveau, machin, tu sais pas te vendre, tralala, tralala quoi.
Alors...
Donc en fait c'est souvent vécu comme une punition l'intercontrat ou comme enfin une période assez délicate. Moi j'ai jamais compris pourquoi. Hein.
Ouais.
Personnellement je serais en intercontrat, je serais super heureux quoi.
Oui quelque part enfin, c'est presque idéal que t'es payé à rien foutre ou presque. Ouais.
Enfin, ça dépend. Si t'es au siège social, enfin, tu sais, les derniers sont obligés de pointer au siège social et, ouais, et chercher aller, machin et tout. Enfin, ouais.
Ouais, donc t'es obligé toi, en tant qu'informaticien, de faire le boulot du commercial en quelque sorte, de chercher
souvent,
des missions.
Ouais.
Quoi.
Enfin, ouais, ça arrive, hein, ça arrive. Enfin, de toute façon, à ce jour-là, les commerciaux dans les boîtes généralement ont toujours le dernier mot hein, par rapport à celui qui produit réellement.
Ouais, parce qu'ils vont vendre le fait que la personne n'est pas qualifiée ou pas, ouais, voilà, pas assez bien, machin, et que c'est de sa faute si, si on n'arrive pas à la placer.
Il n'est pas assez sociable, ou il n'est pas ci, ou il n'est pas ça.
Pas assez docile.
Ouais, aussi.
Peut-être. Il peut y avoir de ça. Ouais, donc finalement, il y a un côté où on pousse la personne à démissionner si, si on n'arrive pas à la placer assez vite et si éventuellement...
Mais t'as même pire, en fait, c'est l'article 8 du Syntec, donc de la convention collective de la plupart des informaticiens, qui dit que si tu refuses une mission quand on intercontrat, avant, au bout de plusieurs, tu étais licencié pour... Je sais plus pourquoi.
Pour insubordination.
Pour foutre réel et sérieux, je pense.
Ouais.
Alors que maintenant, tu es considéré comme démissionnaire. Au bout d'une seule mission que tu refuses, tu es considéré comme démissionnaire.
Ouais, donc en fait, tu n'as pas le droit de refuser, quel que soit le truc qu'on te propose, même si c'est... mission à la con,
ouais, à l'autre bout du monde, ouais, sur,
super loin de chez toi.
Bah, généralement, c'est ce qui se passe. Enfin, c'est typiquement le genre d'article qui permet de se débarrasser de tous les plus vieux, enfin, tu sais, de renouveler un peu le, enfin, d'avoir un turnover assez assez élevé, c'est-à-dire de te virer soit les plus vieux, soit les plus vénères, quoi, les syndicalistes, machin, et de récupérer en fait pas mal de petits jeunes qui sortent d'école de commerce et qui sont beaucoup plus dociles,
ouais, plus malléables,
et qui sont pas du tout, ouais, qui ont été de toute façon formatés à une certaine manière de travailler et qui de toutes les manières sont des années-lumière de tout ce qui touche au monde syndical, quoi.
Ouais, et puis qui demandent moins de salaire aussi, qui s'accommodent mieux de conditions.
Soit des jeunes loups, soit des gens assez apathiques, tu vois, qui ont jusqu'à 20-30 ans, se laissent faire et ne voient rien à redire. Et après, c'est à partir de 30 ans, tu vois, qu'ils commencent à avoir les premiers burn-out, les déprimes, les machins. Et qu'ils se rendent compte qu'à 35 ans, ça y est, t'es à la porte et que t'es déjà trop vieux, quoi, dans ce métier.
Ouais, c'est ça qui est.
Finalement, on a l'impression presque d'être des top modèles, tu vois. Enfin, à 30, 35 ans, on est déjà. Ou des footballeurs, voilà, on est déjà trop vieux.
C'était fini, quoi. T'as plus qu'à te pendre pour faire
Surtout
de la
qu'en plus, si tu te fais. Si à 30, 35 ans, tu vois, tu te fais virer, tu trouves plus de boulot, ça veut dire que ça te laisse plus que 15 ans avant de pouvoir t'acheter une Rolex, tu vois, pour faire à tes amis. Donc, tu vois.
Assez court, après.
Ouais, c'est assez court. Hein.
C'est quand même court si tu retrouves pas tout de suite.
La course de la vie.
C'est un vrai problème. Donc, ouais, effectivement, c'est. Bon, cette convention, encore une fois, qui est quand même problématique. Et puis, au-delà de ça, donc, l'attitude des SS2I elles-mêmes, donc des entreprises qui emploient les informaticiens, qui les utilisent tant que possible et qui vont essayer de s'en débarrasser. On me dira, comme beaucoup d'autres entreprises aussi, hein, c'est pas que les SS2I, mais en l'occurrence, c'est sûr qu'un salarié qui est à charge, on va dire, qui n'est pas chez un client... Ça plaît pas bien en haut lieu. Alors, maintenant qu'on a fait un peu le tour de ce côté-là, on va peut-être voir un peu les conséquences, c'est-à-dire les conséquences pour les entreprises qui pratiquent du marchandage, donc qui s'exposent aux délits et donc aux sanctions. Alors, tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a un côté pénal.
Et donc, tu es condamné pas seulement qu'au prud'homme. Ça relève du pénal aussi.
Ouais, c'est ça. Donc, après, il peut y avoir du prud'homme, mais il peut y avoir du pénal, c'est-à-dire des fortes amendes. Mmh. Là, j'ai les chiffres. Là, comme ça, je ne dis pas de bêtises. Toute personne physique responsable du délit est passible d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 euros.
Ouais, c'est ça.
Ou de l'une de ces deux peines seulement. Ce n'est pas forcément les deux, mais ça peut être jusqu'à 30 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Donc, c'est quand même... C'est quand même une peine qui fait réfléchir. Et avec ou sans interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'œuvre pour une durée de 2 à 10 ans. En plus, bon. Moi, je dirais qu'activité de sous-entrepreneur, je me demande si ça ne devrait pas être interdit tout court et à vie, mais bon. On pourrait réfléchir. Et après, donc ça, c'est pour les personnes physiques. Et pour les entreprises, donc une entité, une personne morale, peut être condamné aussi. Donc là, l'amende, ça peut être 150 000 euros au lieu de 30 000, avec ou sans dissolution, interdiction d'exercer, fermeture d'établissement, exclusion des marchés publics, confiscation ou autre. Bon là, après, c'est à l'appréciation aussi des juges. Mais voilà, on peut voir quand même que ça peut aller très loin, donc ça peut aller jusqu'à des fermetures d'établissement, dissolution d'entreprise et compagnie. Donc. Et c'est pour ça aussi, on disait tout à l'heure... On a parlé du MEDEF, du Syntec Informatique et d'autres organisations patronales qui ont très envie que ce soit abrogé, ce délit, ou en tout cas très assoupli, parce qu'effectivement, ça les embête bien. Étant donné les sanctions possibles, qui sont quand même assez lourdes, c'est pas juste... il va nous emmener au prud'homme, ça va nous coûter 15 ou 20 000 euros, et puis basta, on est débarrassé de la chose. Ça va quand même loin, les personnes peuvent aller en prison, les établissements être fermés, donc ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, et à mon sens, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir ce marchandage qui est reconnu comme un délit, parce que c'est encore quelque chose qui protège au moins un petit peu les informaticiens et même d'autres salariés qui sont exposés à ça.
C'est pour ça que si vous voyez que vous êtes dans ce cas, il ne faut pas hésiter à foutre un prud'homme, parce que ça rapporte vraiment... c'est ce qui rapporte, je crois, le plus gros, de toutes les manières.
Ah oui.
Je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas comment ça se passerait pour des cas d'harcèlement sexuel ou
machin, ça, peut-être ça, je sais pas. Plus encore, mais je pense que c'est dans le top...
En tout cas, ça rapporte vraiment. On devrait peut-être donner quelques conseils pour... si vous sentez qu'il y a justement des lignes de marchandage, en fait, ce qu'il faut, c'est déjà faire une copie de tous les mails, tous les soirs, en fait. Parce que de toute façon, sinon, du jour au lendemain, on peut vous bloquer votre adresse mail, votre boîte mail perso ou pro, enfin, votre boîte mail pro. Et donc, en fait, il faut vraiment faire une copie tous les jours, tous les soirs. Et en fait, surtout, essayer de récupérer des mails qui ont attrait, par exemple, aux congés payés, ou aux horaires de travail, ou à la charge de travail, ou par exemple...
Ou même des consignes, quoi.
Ou les consignes. Un truc qui est super, c'est genre... comme vous m'avez dit tout à l'heure, je prendrai bien mes congés à telle date. Enfin, là, par exemple, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est vrai.
Ou sur les horaires de travail, sur les consignes et tout ça, quoi.
Ça induirait, là, ce genre d'exemple, ça induirait que, voilà, y a un côté relation... RH qui a été négocié non pas avec la SS2I, non pas donc son l'employeur, mais avec le client.
Dès qu'il y a un ordre ou une directive donnée par le client et pas par votre employeur, il faut mettre ça de côté par mail et monter un petit dossier.
C'est déjà une preuve. Même si c'est tout con d'ailleurs, même si c'est pour 15 heures, développe-moi telle ou telle chose. Ça déjà, c'est une consigne qui est donnée par le client, donc évidemment avec la signature de la personne du client. Ça suffit pour que ce soit dans un cas de délit de marchandage. Là, c'est prouvé. Donc effectivement, il faut avoir un document. Alors ça peut être un document en papier, mais c'est vrai que dans l'informatique, tout ce qui est email, c'est, juridiquement, c'est valable. Donc faut bien...
Mais surtout, en plus, c'est assez marrant, mais il y a très peu de patrons ou de RH qui connaissent le délit de marchandage, donc il y en a énormément, qui n'hésitent pas à envoyer des mails d'ordre direct, en fait.
Mais en plus, comme il y a, je pense, peu de salariés, finalement, qui se défendent par rapport à ça, qui font des choses, forcément, les clients doivent être très très peu habitués à faire face à ça.
Ça, t'as absolument raison, enfin... Il y a quand même un énorme sentiment d'impunité, de toute façon une méconnaissance du droit du travail dans l'industrie informatique. Donc dès que tu te bouges le cul ou dès que tu es sur un petit article de loi ou machin, enfin tu vois les visages qui se décomposent, c'est genre « Ah, rébellion, ils connaissent ici, comment ça se fait ?» C'est quand même assez marrant quoi, de voir dès que tu te bouges un peu le cul, de voir tomber des nues, quoi, parce qu'on est tellement habitué à une main-d'œuvre ultra servile et ignare sur le droit du travail, qui se permettent vraiment tout. Et dès que tu te bouges,
ça
peut donner de la tête, quoi.
Peut-être ça peut être aussi un moyen de pression si on a des auditeurs qui sont concernés, notamment dans la SS2I. Face à ce problème-là, ça peut être alors dire soit au client et ou à la SS2I, attention, là il y a des choses qui ne sont pas régulières, ça s'appelle des lignes de marchandage.
Je conseille de ne pas le dire moi. Personnellement, je conseille de ne pas le dire, de garder tout ça sur le coude et de foutre un prud'homme derrière.
Tu sais, des fois si t'es un peu emmerdé, qu'on te met la pression, machin, genre non, tu rentres pas chez toi ce soir, et tu dis attendez.
Ah mais il faut, franchement, dans ce cas-là, quand on le peut, il faut tenir. Prendre le maximum de preuves et foutre un prud'homme derrière parce que ça rapporte vraiment pas mal. Vous diriez qu'il n'y a pas que le fric, mais franchement, c'est le seul langage qu'ils comprennent et ça fait du bien de les voir cracher au bassinet.
Ça c'est clair, mais ça les calme. Ça les calme, mais bon, après quelqu'un, disons, qui n'aurait pas envie de se lancer dans un prud'homme qui va durer 3 ans, machin. Tu vois, sur le coup, ça peut être écouter lâchez-moi un peu les basques.
Dire de toute façon, à partir de maintenant, j'ai plus d'ordre à recevoir de vous. De toutes les manières, ça s'appelle du délit de marchandage.
Que quelqu'un aille au burn-out ou pète un câble, etc., ça peut être une solution de décompression, de dire stop, la loi c'est ça, faites gaffe à ce que vous faites, parce que ça pourrait aller jusque-là.
Généralement, c'est l'employeur qui va commencer à faire chier, te foutre en intercontrat super long jusqu'à ce que tu craques et tu te barres. C'est généralement le cas qui arrive le plus, c'est-à-dire tu te rebelles contre ton client ou tu vas voir ta boîte en disant commence à faire chier. on te remplace, on te fout en intercontrat jusqu'à ce que tu craques, que tu démissionnes ou un truc comme ça, quoi.
Bah, c'est le risque de toute façon, je crois, dans tout cas où tu te rebelles plus ou moins et où voilà, on va te mettre au placard.
Enfin, ouais, le placard, ça s'appelle l'intercontrat dans l'informatique, quoi. Enfin, non, dans
oui,
les
voilà, c'est ça. C'est l'intercontrat de longue durée ouais. où t'attends et on te culpabilise. En plus, on sait ce qu'on disait tout à l'heure. Et, ouais. et finalement, tu finis par signer une petite rupture conventionnelle, voire démissionner carrément.
Et surtout qu'on a tellement, enfin, on rend tellement fou les gens sur la notion de travail, de machin. Que les gens, au lieu d'en profiter, d'apprendre des nouvelles technos, ou je sais pas, de partir en vacances, j'en sais rien, quoi, de passer du bon temps en famille, culpabilisent vachement, enfin, je me sens inutile, machin.
Ouais, je suis un poids pour ma société.
Ouais, voilà.
On me dit que je sers à rien. Et... non, mais c'est vrai que c'est.
Faudra en profiter pour se taper des cuites en pleine semaine.
Arriver ouais, à
se taper une cuite un dimanche, tu vois, ça, c'est la classe, quoi. Tu dis, nous tous, comme des connards, on va aller bosser le lundi. Et non, toi, tu t'en fiches, tu te fous une bonne cuite le dimanche.
Bah c'est ça, à la limite, faut résister au placard quoi, et se dire ok, je suis en intercontrat. À la limite, dire au commercial ah bah super, ça fait un an que je suis en intercontrat, mais moi je pense finir ma carrière comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, faut pas espérer ni des promotions, ni de l'avancement, voilà, ce genre de choses dans ces cas-là. Ça, c'est voilà, faut le savoir maintenant. Bon, ça, on peut s'exposer à un licenciement aussi, même si la cause n'est pas réelle et sérieuse. Et, voilà, c'est ce que j'ai connu dans ma boîte. Tu te mets en grève du zèle, machin, tu fais juste le minimum. Bon, effectivement, à un moment donné, tu peux t'exposer à ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai que c'est un choix qui n'est pas facile, mais qui peut exister et qui peut servir peut-être à certaines personnes. Alors, avant de finir, on va peut-être parler d'un cas un peu particulier qui nous a été transmis.
Je t'enfile le bébé.
Il y a quelques temps, par un avocat qu'on connaît bien. Et alors, c'est un jugement de cassation qui a été rendu je regarde la date, c'était en janvier, le 24 janvier 2013, donc c'est assez récent. Et donc là, on est justement typiquement dans un cas qu'on a évoqué, c'est-à-dire un salarié qui travaille pour une entreprise, une SS2I. Et qui est envoyé chez un client.
On donne les noms, allez.
Bah, le client 9CGTL et la SS2I Matisse Technologies. Alors, comme ça, c'est fait. Et effectivement, là, alors, ce qui est notable, ce qui est un petit peu particulier par rapport à d'habitude, c'est que il y a eu reconnaissance, alors je crois que c'est même travail dissimulé exactement, qui a marqué dans le compte rendu, faudrait relire. Mais en tout cas, ce qui a été reconnu, c'est la culpabilité donc, de la SS2I, mais aussi du client. Donc les deux ont dû payer des dommages et intérêts. Ce qui, en principe, le fautif dans ces cas-là, bon, bah, c'est plutôt c'est l'employeur. Quoi. Un salarié est toujours opposé à son employeur, de temps en temps l'inverse. Mais en tout cas, c'est bilatéral, comme on dit. Et là, non, le client a été reconnu aussi comme étant fautif dans l'affaire. Et finalement, il me semble qu'il y a un côté logique dans tout ça. C'est que le client, on ne peut pas dire qu'il ignore ce qu'il fait quand il donne des consignes, quand il se comporte avec le salarié comme si c'était son salarié et non pas un prestataire, etc.
L'employeur non plus.
Il sait ce qu'il fait, quoi. Il sait. Alors peut-être qu'il ne connaît pas bien délit de marchandage ou autre.
D'ailleurs, on n'aurait jamais dû faire cette émission parce que maintenant, les RH, tout ça, vont être formés au délit de marchandage. Quoi.
Ouais, faudrait qu'ils nous écoutent pour ça. Je suis pas certain qu'ils le fassent. Non, mais ce qui serait bien surtout, c'est que les informaticiens nous écoutent et qui se syndiquent et qu'à un moment donné, on arrive à grande échelle à faire reconnaître que le délit de marchandage, ça existe très couramment, très quotidiennement dans beaucoup de SS2I et qu'on arrive à taper fort contre toutes les entreprises qu'ils font pour, une bonne fois pour toutes, clarifier les choses, comme dirait la synthèque informatique, mais les clarifier dans notre sens.
En tout cas, c'est clair qu'il y a quand même un rôle assez schizophrénique quoi, enfin, du presta qui est dans situation délit de marchandage. Quoi. C'est-à-dire que tu bosses depuis super longtemps dans une boîte dont t'es pas salarié, tes collègues sont pas vraiment tes collègues, ton patron n'est plus vraiment ton patron, enfin, tu vois, c'est quand même... C'est spécial comme situation, quoi.
C'est spécial, c'est inconfortable et ça peut aussi expliquer en partie. Bon, là, on a un camarade qui aurait peut-être pu en parler. Je vais pas parler à sa place, mais il y a des cas de burn-out, c'est-à-dire de quoi, de dépression, enfin, ou de on perd pied complètement. Voilà, ça existe puisqu'on a des connaissances qui ont été concernées et qui sont encore concernées. Parce que voilà, bon, c'est une somme de facteurs. C'est pas le fait d'être placé forcément chez un client, mais c'est sûr que cette dichotomie qui existe où on ne sait pas trop où on habite et on nous met un peu la pression de tous les côtés, voilà, moralement, ça peut être difficile, surtout.
Pour surtout, encore une fois, on n'est pas vraiment aidé par les collègues sur place, quoi. Enfin, il y a quand même une énorme barrière, frontière entre les internes et les externes. Enfin. C'est quand même toujours assez spécial, quoi.
Déjà que, bon...
Enfin, tu vois, t'arrives, les gens se connaissent depuis 5, 6, 7, 8, ouais. 9, 10 ans.
Toi, tu débarques, t'es pas vraiment de la boîte, ouais. Tu vas repartir à un moment donné.
De toute façon, même physiquement, tu vois, t'es toujours placé souvent dans un petit bureau à part, enfin...
Ouais, c'est plus difficile de s'intégrer, quoi, ouais. De se lier avec des gens. Donc c'est sûr que quand il y a un problème ou une tension, s'il y a personne à qui en parler ou si c'est difficile, bon... Ou si on a envie peut-être aussi de mener une action, de se dire, tiens, on ne ferait pas un tractage, une section syndicale, n'importe quoi, et que, ah bah non, ouais, nous, on ne te connaît pas bien, toi, tu viens de l'extérieur. Bon, forcément, c'est délicat. En tout cas, nous, c'est pour ça qu'on encourage nos collègues et nos amis informaticiens de tous horizons en SS2I à se syndiquer pour qu'on puisse faire quelque chose.
Ou à se bouger le cul localement, enfin dans leur boîte.
Oui, aussi.
Se syndiquer déjà. Chez nous, c'est encore mieux, évidemment.
Mais déjà, oui, dans leur boîte, ce serait pas mal. Tu voulais faire une coupure ? C'est Colin qui nous fait signe ?
Ouais, fin de l'émission est bientôt finie. Donc...
Ouais, ça touche à sa fin, mais comme, comme Colin était...
On attend juste que le copain finisse au téléphone.
Bonsoir, mesdames et messieurs, au moment où je vous chante cette chanson, le constat est plutôt joyeux. Tout dépend d'où t'as planqué ton pognon. Ils voudraient nous faire gober tous ces banquiers et rentiers milliardaires. Le capital, c'est la santé, et que ça désespère des momos gravataires, et que ça s'accélère le grand bond vers l'arrière. Et pourtant. Et pourtant, la chienlit, c'est comme le chien-dent, ça repousse forcément un moment. Y a beau couper, c'est provisoire. Tant qu'il y a du noir, y a de l'espoir. Les vieux principes du 16e siècle et toutes leurs vieilles traditions débiles, la cinglerie concurrentielle, ça fait baver ceux qui ne pensent que mercantile. Nous, ça nous bouffe la cervelle avec des crédits sur le dos. La pub nous sourit, la vie est belle. Faut juste bosser plus pour crever au boulot, puis consommer plus et pivoter Sarko. Et pourtant, la chienlit, c'est comme le chien-dent, ça repousse forcément un moment. Y a beau couper, c'est provisoire. Quand il y a du noir, y a de l'espoir. Je vais pas faire un inventaire de toutes les saloperies qui se passent aujourd'hui. Le retour des réactionnaires, c'est l'ancien régime coupé à l'eau de Vichy. Toutes les frasques présidentielles, de campagne, de meeting en gala, suffiraient d'une étincelle pour que ça pète un bon coup. Mais pourquoi que ça pète pas ? Les lunettes à carla cachent le pouvoir d'achat, je le consens. Et pourtant, la chienlit, c'est comme le chien-dent, ça repousse forcément un moment. Y a beau couper, c'est provisoire, tant qu'il y a du noir, y a de l'espoir. Thank you.
40 piges après. C'est vrai que ça paraît bien loin, 68, le temps qui passe, faut brossifier. Il se pourrait qu'un jour à nouveau y ait des fuites et qu'on érige des barricades, qu'une fois pour toutes on fout tout ça en l'air. Ça sera l'ultime estocade, tapé dans la gueule des bourgeois actionnaires. Cette clique de brigands, joyeux anniversaire. L'air frais du vent de mai souffle toujours et encore.
Ploum, ploum, tra-la-la, Sarkozy tête de mort.
Voilà, vous venez d'écouter David Vincent et ses mutants, c'était Messi 8. Petite pause musicale bien comment mouvementée avec trois appels téléphoniques. Merci pour vous. Allez, à vous.
On tient à remercier d'ailleurs les trois auditeurs qui nous ont appelés pour nous raconter leurs anecdotes. Et sinon, bah, je te repasse la main, Guillaume.
Oui, donc bah, oui, merci aux personnes qui ont appelé. Nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission le mois prochain, donc comme d'habitude, le premier lundi du mois, avec un nouveau thème. Entre-temps, si vous souhaitez en apprendre plus sur le syndicat, notre URL, www.syndicat-informatique.fr ou .org.com ou .net, ça marche avec plein de points différents, c'est ça qui est très bien. Ou syndicat informatique sur Google, je crois que on marche pas mal aussi, ouais, on est pas mal. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne continuation et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez de plus en plus de questions ou si vous souhaitez adhérer éventuellement ou autre. Allez, bonne soirée à tous.
Ciao, bonne soirée.